Vous écoutez « On lit pour vous ».
Des cégeps qui débordent et se détériorent à une vitesse préoccupante, un texte de Zachary Goudreau, paru le 23 août 2024 dans Le Devoir. Les cégeps débordent d'étudiants et se dégradent à une vitesse préoccupante au moment où les fonds continuent d'être insuffisants pour leur entretien et leur agrandissement. S'inquiète la nouvelle présidente directrice générale de la Fédération des cégeps, Marie Montpetit. Un mois et demi après son entrée en fonction, l'ancienne politicienne et chroniqueuse politique vit ces jours-ci un baptême de feu, marquant son arrivée à la tête de l'organisation représentant les 48 collèges publics du Québec. Des données préliminaires recueillies par la Fédération des cégeps entre le 1er et le 21 août, font état d'un total de 184 709 étudiants inscrits dans le réseau collégial public cet automne. Cela représente une croissance de 5,3% par rapport au total d'inscriptions à pareille date l'an dernier et la plus forte hausse de l'effectif étudiant en 25 ans, selon l'organisation. C'est une très belle nouvelle de voir qu'il y a une augmentation des étudiants, puisqu'elle témoigne d'une accession plus grande des jeunes Québécois à des études postsecondaires, a déclaré Mme Montpetit, dans le cadre d'une entrevue de fond accordée au Devoir. Mais ça amène vraiment une préoccupation sur comment le gouvernement va accompagner les cégeps là-dedans, puisque cette croissance rapide des effectifs amène son lot de défis, a-t-elle évoqué. À Montréal seulement, 2417 étudiants s'ajoutent au réseau cette année, une croissance de 4%. Ce pourcentage atteint 10% dans les cégeps de Lanaudière, 7,1% dans ceux des Laurentides et 8,7% dans ceux de Chaudière-Appalaches notamment. Dans ce contexte, plusieurs établissements ont dû installer des classes modulaires, aussi appelées roulottes, près de leurs bâtiments pour compenser le manque d'espace dont ils disposent et ainsi accueillir tous les étudiants inscrits. On est en pleine rentrée et on voit à quel point les cégeps, ça leur demande beaucoup d'ajustements à l'heure actuelle pour accueillir tous ces étudiants-là, lance avec inquiétude Mme Montpetit. Des cégeps délabrés. Cette situation survient dans le contexte où les infrastructures collégiales se sont dégradées à une vitesse vraiment préoccupante au cours des 5 dernières années en raison du manque de financement accordé à leur entretien, a fait valoir Mme Montpetit. Dans un rapport publié en mai dernier, la vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, soulignait d'ailleurs que, d'ici 2028, Québec a prévu investir 608,6 millions de dollars pour contrer le déficit de maintien d'actifs du réseau collégial, alors que 1,7 milliard serait nécessaire. Actuellement, les deux tiers, 65 % des bâtiments du réseau collégial sont considérés comme en mauvais état. Des cégeps se retrouvent ainsi forcés de fermer des bâtiments en raison de leur désuétude, tandis que les projets d'agrandissement réclamés par ces organisations depuis longtemps peinent à obtenir les fonds requis pour se concrétiser, déplore la nouvelle PDG. Et même pour les projets d'agrandissement qui sont acceptés, il y a une lenteur dans l'aboutissement des projets, l'aboutissement des financements, pour toutes sortes de considérations. C'est un problème, a-t-elle ajouté. Elle craint d'ailleurs que le recours à des classes modulaires et la décision de certains cégeps d'offrir des cours de soir pour compenser le manque d'espace deviennent insuffisants pour répondre aux besoins d'une communauté étudiante grandissante. Or, au moment où un coup de barre s'impose pour augmenter les sommes destinées à l'entretien et à l'agrandissement des collèges de la province, Les échos que la Fédération des cégeps reçoit de la part du gouvernement vont plutôt dans le sens contraire, s'alarme Madame Bonpetit. Elle s'inquiète ainsi de la perspective que Québec décide de restreindre, dans les prochaines années, les investissements qui sont faits dans les infrastructures des cégeps, même si leur population étudiante pourrait croître de 20% d'ici 10 ans. On invite le gouvernement à continuer d'investir massivement dans les infrastructures parce qu'il ne faudrait pas se retrouver dans des situations où des étudiants feraient d'autres choix que celui d'aller au cégep ou de poursuivre leurs études parce qu'ils ne se retrouvent pas dans des situations optimales pour l'éducation, a soutenu l'ancienne députée de l'Assemblée nationale. Il faut peser sur l'accélérateur. Le rôle des étudiants étrangers. Les données compilées par la Fédération des cégeps montrent également que 9280 étudiants étrangers sont inscrits au cégep à l'enseignement ordinaire cet automne, ce qui représente un bond de 14,4% en un an. Il y a eu une augmentation du nombre d'étudiants internationaux, mais c'est vraiment parce qu'on a répondu à l'appel du gouvernement sur différents projets visant à répondre à la pénurie de main-d'œuvre, notamment dans le milieu de la santé, a souligné Madame Bonpetit. Cette dernière est ainsi peu préoccupée par le projet de loi qu'entend déposer cet automne le gouvernement Legault afin de limiter le nombre d'étudiants étrangers. Marie Bonpetit doute en effet que la démarche législative vise directement les cégeps, notamment en région où les membres de ce groupe jouent un rôle essentiel. Ils sont nécessaires à la vitalité de certains programmes et de certains cégeps, a-t-elle rappelé. C'était des cégeps qui débordent et se détériorent à une vitesse préoccupante, un texte de Zacharie Goudreau, paru le 23 août 2024 dans Le Devoir.
Les filles de Jeanne, les grandes histoires de femmes sans histoire. Un texte de Jean-François Nadeau, paru le 10 mai 2024 dans Le Devoir. Dans un livre étoffé et étonnant où elle propose une histoire originale de la société québécoise, André Lévesque dresse le riche portrait d'un monde de pauvres et d'oubliés, celui d'une lignée de femmes d'ici. Les filles de Jeanne est un livre renversant. C'est l'histoire de la descendance de Jeanne Perrin, arrivée de France sur les bords du Saint-Laurent en 1658. André Lévesque suit le déroulé de sa descendance jusqu'à Maria Mélenchon-Brisson, décédée en 1915. Entre les deux, 10 générations ont passé dans ce qui, bien au-delà d'une fresque, prend l'allure d'une leçon magistrale d'humanité et d'histoire. Ces vies inconnues, si elles ont valu la peine d'être vécues, méritent aussi d'être racontées, estime l'historienne. Spécialiste de l'histoire des femmes et du mouvement ouvrier, longtemps professeur à l'Université McGill, André Lévesque dirige les archives Passe-Mémoire, consacrée aux écrits autobiographiques. Cette historienne d'expérience est partie outillée de son écriture vive et agréable, sur la trace de ses vies anonymes. C'est un travail que j'ai entrepris pendant la pandémie, avec l'aide d'une assistante et des ressources de l'Université McGill. D'autres qu'elles ont déjà suivi un chemin semblable au pays des anonymes. Alain Corbin, historien français, avait entrepris de raconter la vie d'un simple sabotier en réalisant le tour de force d'exposer tout un monde à partir de lui. C'est le mérite immense d'André Lévesque de nous donner à mieux comprendre ce monde des humbles et des oubliés que l'histoire officielle a passé sous silence, au profit des grandes épopées de l'histoire officielle. Suivre l'histoire d'une lignée de femmes ordinaires n'est pas évident. D'abord, parce qu'elles changent de nom à chaque génération, prenant celui de leur mari. Ensuite, parce que ce sont des analphabètes. Elles n'ont pas laissé de récit de leur vie. Pour les comprendre, il faut essayer de cerner au mieux leur société sur la base du peu que nous savons d'elles, à travers des actes officiels, baptême, mariage, acte de vente, testament, inventaire à l'occasion d'un décès. Avec presque rien en main, c'est tout un pan de l'histoire du Québec qu'André Lévesque réussit à faire jaillir sous les yeux du lecteur, dans une sorte de magie de la narration où elle emmaillote son sujet d'un tricot aux couleurs multiples. Depuis La Rochelle. C'est de Jeanne Perrin que parle André Lévesque pour commencer son livre étonnant. Madame Perrin a bel et bien existé. Elle a eu une identité, une vie, des tourments, des joies, des peines. Nous ne connaissons rien d'elle ou presque. André Lévesque s'en approche, la situe dans son monde, si bien qu'à travers elle jaillit en quelque sorte le portrait de toutes les femmes de son époque qui vont immigrer dans le Nouveau Monde. Mais n'allons pas trop vite. Nous voici d'abord à La Rochelle. Cette grande ville portuaire se remet à peine du siège d'une terrible guerre de religion lorsque Jeanne Perrin, la quarantaine bien sonnée, mère de 3 enfants, s'embarque pour le Nouveau Monde. Très peu de femmes de cet âge arrivent en Nouvelle-France à cette époque. Encore moins toutes seules, avec 3 enfants, explique André Lévesque en entrevue. Jeanne prend pied sur les rives du Saint-Laurent avant les filles du roi, censées peupler la colonie où sont établis des rapports de domination avec les Autochtones. Que vient-elle faire là? Pourquoi, résume André Lévesque au téléphone, le mari de Jeanne Perrin laisse-t-il partir sa femme et ses 3 enfants pour la Nouvelle-France? Lui est un simple portefaix, l'équivalent d'un débardeur. Il meurt 3 mois après le départ de sa femme. Sa santé s'était-elle détériorée avant, au point où sa femme, pour survivre avec ses enfants, s'est vue forcée de l'abandonner? Rien ne l'assure. Il est loisible de le penser. Peut-être que Jeanne Perrin trouve dans cette traversée risquée la seule opportunité pour survivre. À La Rochelle, une loi interdit en tout cas aux particuliers de nourrir ou de loger les pauvres. Comment survivre? La famille de Jeanne est protestante, des huguenots, comme on dit. J'ai été étonné de voir apparaître, au milieu d'un inventaire, une Bible. Non seulement une simple Bible, mais une Bible en 8 volumes. Dans cette colonie de la Nouvelle-France dont il n'a cessé d'être répété qu'elle était catholique, André Lévesque rappelle une vérité. Au moins 10% des migrants qui arrivent sur les rives du Saint-Laurent sont des protestants. Le cardinal Richelieu affirmait qu'il n'y en avait pas dans la colonie. C'est faux. Arrivés ici, ils sont forcés de se convertir, mais cela a laissé des traces. Que va devenir Jeanne? Elle est engagée, pour un maigre salaire, à titre de domestique, au Cap de la Madeleine. Son maître pourrait prendre des esclaves autochtones, explique André Lévesque. Seulement, ceux-ci ignoreraient les us et coutumes de France. Entre dominants et dominés, des points de contact sont préservés à bas prix. L'historienne pose petit à petit devant son lecteur, avec le doigté du métier et avec délicatesse, les pièces qui lui permettent d'envisager et de situer l'existence des descendantes de Jeanne Perrin. Elle nous les présente à travers les soubresauts de chaque époque. Voici l'arrivée massive des Acadiens dans les campagnes québécoises, chassés de leur coin de pays par les Britanniques. Les assemblées des patriotes dans la décennie 1830. Puis, après 1840, les ultra-catholiques qui règnent au nom de la tempérance, cette vaste guerre contre l'alcool et l'indépendance d'esprit. Reste que rien ne change tellement dans la vie des gens au jour le jour. Pendant des générations, toutes ces femmes continuent de signer leur nom d'une croix. Elles parlent français, mais personne ne sait ni lire ni écrire. Vous écoutez Les filles de Jeanne, les grandes histoires de femmes sans histoire. Un texte de Jean-François Nadeau paru le 10 mai 2024 dans Le Devoir. Au fond du rang, ces femmes participent à une société d'ancien régime que la conquête britannique n'a pas fondamentalement changée. Elles vivent dans un régime féodal qui s'étire jusqu'à donner l'impression de bégayer d'une génération à l'autre. Dans ce théâtre, les gens apparaissent endettés à perpétuité, même s'ils travaillent tout le temps, au fond de leur rang. quand tu vis au fond du rang du Pic Dur, le mode de vie ne change pas tellement, malgré les changements politiques, explique André Lévesque. Il continue de parler français et le reste coule sur eux comme de l'eau sur le dos d'un canard. Nous voici au pays d'endettés à perpétuité. Louise Deschênes, ma collègue à McGill, avait bien montré la situation de ces gens, tout comme Fernand Ouellet, que j'ai connu à l'Université d'Ottawa. Ici et là, dans les rares documents écrits qui concernent ces vies directement, apparaissent quelques détails qui font sourire. Quand une des descendantes de Jeanne Perrin s'en remet à l'un de ses fils pour survivre, elle fait par exemple officialiser par un notaire l'assurance qu'elle pourra compter sur assez de volaille. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il lui faut des bouillons capables de tenir la maladie à distance. Dans cette longue lignée de femmes, ce n'est qu'au 19e siècle que l'on voit apparaître Maria. Elle sera la première à lire et à écrire. Elle devient maîtresse d'école, mais elle va se marier à un homme analphabète. Elle va s'occuper des enfants. Au fond, elle reprend la même vie qu'avant. Nous le savons, il n'y a pas de progrès en histoire. André Lévesque se tient loin de l'idée libérale joyeuse selon laquelle nous allons de progrès en progrès. L'émancipation et la promotion ne sont pas au programme de plusieurs générations, montre-t-elle. André Lévesque cerne ses vies de femmes petit à petit. Elle tourne autour de chacune. Ce n'est jamais lourd. Au contraire, c'est fascinant. Tout de même, les surprises sont peu nombreuses. Reste que le lecteur éprouve vite le sentiment de goûter à l'histoire sous un angle original et nouveau. Sans doute, cela tient-il beaucoup à l'écriture toute personnelle d'André Lévesque, à qui l'on doit, chez le même éditeur, de nous avoir fait connaître les vies d'Eva Circé-Côté, de Jeanne Corbin et de Madeleine Parent. Les filles de Jeanne posent, entre autres choses, la question de l'individu. Notre existence en propre, le « je » dont nous nous réclamons, n'est-elle pas en bonne partie une construction qui jette désormais illusion sur notre rapport au monde? La notion d'individu explose au 19e siècle seulement. Avant, tu n'as pas de vie privée. Il n'y a pas de rideau aux fenêtres. Tout se passe dans la promiscuité. Comment faire l'amour dans une pièce unique, occupée par 10 enfants? Que fut, sur ce plan comme d'autres, la vie de 10 générations de femmes? André Lévesque me supplie de ne pas révéler la finale de son livre. Entendu. Je lui ai dit, tout de même, que j'en avais eu les larmes aux yeux. Et c'est vrai. C'était « Les filles de Jeanne, les grandes histoires de femmes sans histoire », un texte de Jean-François Nadeau, paru le 10 mai 2024 dans Le Devoir.
Vieillir un peu plus en santé et bien entouré à la maison d'Airel. Un texte d'André Constantin Passio, paru le 27 août 2024 dans le magazine Fugue. On pourrait dire que le fait que les personnes vivant avec le VIH s'intéressent aux enjeux entourant le vieillissement est une bonne nouvelle. Cela signifie que celles-ci vivent aujourd'hui une vie longue et relativement normale, comme le reste de la population. La réalité des personnes vieillissant avec le virus comporte cependant certaines particularités qui demandent un environnement et une approche sur mesure. À l'occasion de la Journée nationale de sensibilisation au VIH-SIDA et au vieillissement, le 18 septembre, la directrice générale de la Maison d'Airel revient sur la mission de l'organisme et sur les enjeux auxquels sont confrontées les personnes vieillissant avec la maladie. Michel Blanchard fait partie des vétéranes de la lutte au VIH-SIDA. Impliquée dès 1988 auprès de l'organisme, la travailleuse sociale a participé à la définition du concept et à la mise sur pied du centre dédié originalement aux soins palliatifs. Ça fait quelque 35 ans que je suis impliquée avec l'équipe. Nous avons notamment traversé la période catastrophique où tout le monde mourait. Se rappelle-t-elle avec émotion. Aujourd'hui, à la tête de la maison d'Erel, elle a, heureusement, au cours des années, accompagné l'organisme dans une transition d'un centre de soins palliatifs à un centre de soutien à la vie active. S'adressant à ses débuts uniquement aux hommes gays, la maison d'Erel accueille aujourd'hui une clientèle composée à 50 % d'hommes gays et à 50 % d'autres personnes touchées par le VIH, dont plusieurs nouveaux arrivants. Vieillir avec le VIH comporte son lot de particularités, notamment sur le plan physique. Les gens ont été très impactés par la prise de médications durant tant d'années, donc ils développent souvent des troubles aux reins, du diabète, de l'ostéoporose, etc. Témoigne Michel Blanchard. Bien que ces types de troubles de santé ne soient pas uniques aux personnes vivant avec le VIH, ils apparaissent souvent beaucoup plus tôt chez celles-ci. C'est ce que la directrice générale appelle le vieillissement précoce. Du point de vue social, le besoin d'être accompagné par des pairs afin d'améliorer le sentiment de sécurité et de compréhension est un autre besoin auquel répond l'organisme. Les hommes gays, par exemple, ont besoin d'avoir du soutien de la part de pairs plutôt que d'aller dans un CHSLD régulier où ils revivraient possiblement la stigmatisation liée à leur statut sérologique et ou leur orientation sexuelle, explique-t-elle. La maison d'Erel offre donc 4 milieux de vie adaptés aux besoins des différentes personnes qui vieillissent avec le VIH. Plus précisément, elle compte la maison d'Erel, qui offre 10 places sur la rue Saint-Hubert, sur le plateau Mont-Royal, le 3738, qui offre 7 chambres au-dessus de la maison-mère, le satellite, un grand logement pour 6 personnes en colocation, situé dans Côte-des-Neiges, ainsi que les studios, qui offrent 15 appartements individuels sur la rue Sainte-Catherine, dans l'arrondissement Hochelaga-Maisonneuve. Le soutien prodigué aux résidents des différents milieux de vie de la maison d'Erel varie selon les besoins de chacun. On y accompagne les personnes nécessitant un soutien minimum, autant que celles en perte d'autonomie cognitive, par exemple. Selon Michel Blanchard, l'objectif est d'être au diapason des besoins des résidents, tout en s'assurant de leur procurer un milieu social et communautaire actif. Certaines personnes ont besoin d'aide pour l'alimentation. D'autres ont surtout besoin de quelqu'un pour les accompagner, pour la prise de rendez-vous, par exemple. Nous offrons aussi des activités éducatives et sociales, des lieux de parole, etc., pour créer un sentiment de communauté. L'âge moyen des personnes vivant au sein de la maison d'Erel tourne autour de 55 ans, avec un doyen atteignant l'âge vénérable de 84 ans. Aux yeux de la directrice générale, la présence de cette personne témoigne de la pertinence et du succès de la mission de l'organisme. Nous sommes très fiers de la compter parmi nous aujourd'hui, parce qu'il y a 10 ans, elle aurait peut-être dû se tourner vers un CHSLD régulier. Force est de constater que l'organisme fait une réelle différence, puisque, selon Michel Blanchard, certaines personnes voient leur santé s'améliorer, et même certaines capacités revenir lorsqu'elles s'établissent à la maison d'Erel. Pour elle, ces améliorations sont le fruit de l'espoir qui renaît et du sentiment d'isolement qui s'estompe. Les gens arrivent avec l'impression d'avoir un grand défi à surmonter au niveau de la santé ou de la désorganisation. leur offrir de les accompagner et de les suivre malgré leurs conditions leur donne espoir. Le simple fait de ne plus être seul, c'est énorme. Les défis demeurent toutefois bien présents pour les responsables de l'organisme. L'un de ceux-ci est le fait de devoir constamment se mettre à jour à propos des nouvelles avancées scientifiques et des nouvelles réalités des personnes atteintes du virus. La communication avec les autres organismes d'intervention est donc primordiale à ce niveau. On veut ouvrir le dialogue sur ce que ça veut dire de vieillir avec le VIH quand la médication va bien et qu'on vieillit. On travaille à comprendre la gériatrie et le vieillissement précoce chez les gens qui vivent avec le VIH. Partage Michel Blanchard. L'autre enjeu principal, selon elle, est le retour à la vie active pour les personnes immigrantes atteintes du virus. En effet, la stigmatisation très élevée du VIH au sein de certaines cultures rend l'intégration au Québec très difficile. Plusieurs personnes arrivent d'endroits où c'est encore plus tabou que chez nous. Il y a donc une grande crainte de s'ouvrir à ses proches. Ces personnes n'ont souvent pas d'assurance. Elles ne savent pas par où commencer. C'est donc extrêmement difficile. Ces enjeux, rappelle Michel Blanchard, montrent que la lutte au VIH-SIDA est encore bien présente. Il y a un certain sentiment selon lequel la lutte au VIH est réglée aujourd'hui. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous avons encore besoin d'activités de levée de fonds, de bénévoles, etc. La lutte n'est pas terminée. Elle est seulement différente. Info. Pour en savoir davantage à propos des services offerts par la Maison Dérel, visitez maisonderel.org. maisonderelle.org. C'était « Vieillir, un peu plus en santé et bien entouré à la Maison Dérel ». Un texte d'André Constantin Passiour, paru le 27 août 2024 dans le magazine « Fugue ».